Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, le quiz biblique avec Jérôme. N'hésitez pas à participer.
Voilà, bonjour à tous, amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Oui, c'est le quiz biblique, comme annoncé à l'instant. Bonjour Sandrine, elle est occupée, elle est au téléphone. Voilà, donc je vous rappelle que pour venir jouer, c'est le jeu de la semaine sur l'antenne de Radio Maria France, avec des petites questions bibliques qui deviennent de plus en plus malheureusement difficiles. Je m'en rends compte, de plus en plus poussées, de plus en plus fouillées. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est de jouer. On n'est pas là pour... Voilà, avoir bon à toutes les réponses. On est là pour participer ensemble, puisque cette émission, elle se fait évidemment avec vous, amis auditeurs. Et Sandrine est là pour animer, permettre aux animaux également qui sont présents à ses côtés de s'exprimer pendant cette émission. Ah, ça commence bien, on commence avec le loup. Voilà, chers amis auditeurs, c'est parti pour ce quiz biblique. Alors, est-ce que nous avons déjà peut-être quelqu'un?
Oui, nous avons Jacqueline.
Sœur Jacqueline, bonjour.
Bonjour Jérôme. Je ne suis pas en forme, mais j'ai dit j'essaye, je fais. Je ne sais pas ce que je ferai aujourd'hui, mais enfin.
Et Sœur Jacqueline, en tout cas, c'est très courageux de votre part de venir jouer. Même si vous n'êtes pas en forme, vous allez voir, ça va bien se passer.
Oui, si ce n'est pas trop difficile, hein, parce que vous avez dit que ce serait difficile pour moi.
Ben, c'est-à-dire que je m'attendais à votre appel, donc j'ai préparé des questions. Non. Non, mais voilà. Donc, en tout cas, on invite vraiment chaleureusement tous ceux qui sont
mais
à
oui.
l'écoute, qui ont un petit moment à passer, un bon moment à passer, ne pas hésiter
oui,
à appeler. Alors, Sandrine, nous avons pour l'instant personne d'autre. Voilà, donc nous attendons vos appels. Venez jouer avec Sœur Jacqueline Marie, qui nous appelle de Suisse. Comment ça se passe en Suisse?
Mais il pleut, il fait pas beau.
Ah, en même temps, c'est de saison, j'ai envie de dire.
Bah oui. Ah. On aimerait mais de la neige plutôt que de la pluie.
Ah voilà, on a moins en moins de neige, de plus en plus de pluie. Eh bien, Sœur Jacqueline, on va se lancer.
On va essayer.
Alors, ce quiz biblique, là, il est un petit peu centré, en tout cas pour les premières questions, sur la figure de Saint Jean le Baptiste. Ah, Saint Jean le Baptiste. Voilà, est-ce que vous êtes prête, Sœur Jacqueline? On commence avec la première question.
Oui.
Alors, le baptême de Jean, le fameux baptême de Jean, n'avait pas une efficacité magique. Il devait être accompagné d'un engagement. Alors, de quel type d'engagement s'agit-il, Sœur Jacqueline Marie? Trois possibilités. Un engagement à sa suite, un engagement moral ou un engagement à la lutte armée?
À sa suite.
À sa suite. Sandrine. J'interroge Sandrine.
Elle ne me dit rien.
C'est un engagement moral, la deuxième.
Quand même le suivre.
Oui, alors effectivement, d'ailleurs, il y en a pas mal hein, qui l'ont suivi. On n'a pas le chiffre, mais on sait qu'il avait beaucoup de disciples autour de lui. Mais comme on sait qu'il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout pour recevoir ce baptême, l'engagement moral, pourquoi moral? Parce que dans l'évangile de Luc, si vous allez au chapitre 3, verset 10-14, on a « Les foules demandaient à Jean, que nous faut-il donc faire ?» Et Jean leur répondit « Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. »
Ça, c'est du stop.
Donc, c'est du partager ses biens avec les pauvres, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est lutter aussi contre la corruption des fonctionnaires. Voilà le programme qui paraît simple, mais impératif, qui est donné par Jean à ceux qui venaient se faire baptiser par lui. Mm-hmm. Voilà, donc un engagement moral, un engagement de charité hein, aussi, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Dans la charité. Voilà pour cette première question, amis auditeurs. Nous sommes toujours dans le quiz biblique. Nous venons de démarrer avec cette première question avec Sœur Jacqueline Marie.
faut pas me laisser toute seule, il faut arriver. Hein.
Voilà, ne laissez pas Sœur Jacqueline, Marie, toute seule. N'ayez pas peur. Au contraire, on va apprendre plein de choses pendant ce quiz biblique. Alors, c'est parti. Là, j'entends une petite moumouche qui est dans le studio, qui tourne
pourtant
autour.
Elle dort en ce moment.
Bah oui, je comprends pas. C'est parce qu'il fait chaud ici.
Ah bon?
Alors, Sœur Jacqueline Marie, ben on va rester pour la question suivante dans le même récit. Dans ce même passage, on a une foule considérable qui vient se faire baptiser par Jean. Alors la question, c'est quel corps de métier trouve-t-on dans cette foule qui vient se faire baptiser par Jean? Et là, Sœur Jacqueline Marie, plusieurs bonnes réponses possibles. Attention, des militaires, des prêtres du temple, des collecteurs de taxes. Plusieurs bonnes réponses possibles, je précise. Voilà.
En tout cas, les collecteurs de taxes.
Oui, c'en est une. Et ensuite, il reste donc soit des militaires, soit des prêtres du temple.
Les prêtres du temple.
Les prêtres du temple pour Sœur Jacqueline Marie, pour Sandrine. Des militaires et des collecteurs d'impôts.
Au moins une réponse.
Alors là, on le trouve toujours dans le même chapitre chez Luc, au chapitre 3. Oui, des publicains et des soldats. D'ailleurs, aux militaires qui lui demandent ce qu'il faut faire, Jean-Baptiste répond « Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde de soldat. Mm-hmm. » Aux publicains, collecteurs de taxes qu'il interroge aussi, Jean-Baptiste leur dit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Et ce qui est intéressant, c'est de voir que... Donc c'est pour ça que par rapport à la première question hein, tout à l'heure, Sœur Jacqueline Marie, il ne demandait pas forcément à ces gens-là de venir à sa suite. Mais voilà, il y avait cet engagement. Et la présence d'ailleurs de tous ces corps de métier dans les foules hein, qui viennent se faire baptiser par Jean montre que le prophète hein, possédait une grande, grande notoriété à travers la Palestine de ce temps. Et d'ailleurs, ces personnages, hein, vous le savez très bien, Sœur Jacqueline Marie, ces personnages sont d'ailleurs détestés ou méprisés par l'opinion publique.
Bien sûr.
Pour leur collusion avec l'occupant romain. Et évidemment, on va les retrouver dans la proximité, bien sûr, de Jésus. Voilà, donc ça, c'est une continuité, bien sûr, entre Jean-Baptiste et Jésus.
Oui.
Sandrine, t'es une drôle de touche. Hein.
Il faut qu'elle se soigne.
Voilà, il faut se faire examiner, Sandrine. Voilà, chers amis, vous l'avez entendu, c'est le quiz biblique. Il y a des hatchoum, des gens qui toussent, il y a des mouches qui volent, il y a un loup qui hurlait au début. Hein, voilà.
Oh.
C'est, voilà, ça c'est en Suisse, hein, y a des montagnes, il y a des loups.
Oui, ça c'est les petits moutons. Ça,
ah,
c'est mieux.
Les petits moutons. Donc, voilà, nous continuons donc toujours dans ce quiz biblique et nous appelons et nous invitons chaleureusement ceux qui nous écoutent à venir jouer avec nous. Je n'ai pas l'accès aux SMS, donc si jamais il y a des SMS, Sandrine, tu nous diras. Voilà, donc on continue, on reste toujours avec Jean-Baptiste. C'est un spécial Jean-Baptiste, ce quiz biblique. Alors, Sœur Jacqueline Marie.
Oui.
Jean-Baptiste va finir par être arrêté par Hérode Antipas.
Ouais.
On sait que le prophète a critiqué l'illégitimité du remariage d'Hérode.
Ouais.
Cette critique d'ailleurs qui ont exaspéré Hérodiade, sa nouvelle femme. Mais nous savons aussi, d'après les historiens de l'époque, qu'il y a une autre raison à la volonté d'Hérode de stopper le prophète. Quelle est cette raison? Trois possibilités. Sœur Jacqueline Marie, s'agit-il d'une haine personnelle d'Hérode pour Jean-Baptiste? Deuxième possibilité, une raison politique pour Hérode Antipas. Troisième possibilité, un ordre qui a été émis par les autorités romaines pour faire taire le prophète.
La deuxième raison.
La raison politique, et c'est une excellente réponse, Sœur Jacqueline Marie.
Au moins...
Et oui, c'est une raison politique. Pourquoi? Parce que, alors ça, je l'ai découvert en préparant ce quiz, c'est que Hérode est en conflit avec le royaume nabatéen. C'est le royaume voisin, c'est à l'est du Jourdain. Ce royaume nabatéen qui deviendra d'ailleurs la province romaine d'Arabie en 106, nommée ainsi par les Romains.
Vous avez la lecture ce matin à la main, je crois. Hein
je crois bien.
Oui, oui.
Et, alors, ce qui est intéressant, c'est que la première femme, parce que bon, du coup, il a pris Hérodiade comme femme, mais il en avait déjà une. Donc, qui est-elle, cette première femme qui a été répudiée? Eh bien, cette première femme, c'est la fille d'Arétas IV de Pétra et c'est le roi des Nabatéens, avec qui déjà Hérode est en bisbille. Donc, ce qui fait que Arétas IV, le roi nabatéen, il est furieux. Pourquoi ? Parce que sa fille, qui s'appelle d'ailleurs Phasaélis, sa fille, elle est répudiée par Hérode Antipas, puisqu'il va épouser Hérodiade. Du coup, Hérode renvoie sa fille chez son père. Donc, et la critique donc, de l'illégitimité du mariage d'Hérode par Jean-Baptiste se greffe sur une guerre de frontières entre les armées d'Hérode et celles des Nabatéens. Et du coup, Jean-Baptiste va mettre en péril la réputation d'Hérode auprès de son opinion publique.
Oui, mais pourtant, d'après la lecture de ce matin, il avait l'air de l'aimer et il était un peu déçu quand la fille d'Hérodiade lui a demandé la tête de Jean-Baptiste.
Voilà, alors on dit qu'il l'aimait, on entend surtout qu'il le craignait quand même, aussi. Donc il n'y a effectivement pas du tout de haine personnelle, mais en réalité, il y a tout un enjeu politique derrière. Alors ça, évidemment, on ne l'apprend pas dans les évangiles, on l'apprend par les historiens de l'époque, qui ajoutent cette information, effectivement, de ce conflit latent hein, avec les Nabatéens, et cette première femme d'Hérode, qui était bien la fille du roi Nabatéen. Et du coup, Hérode va redouter le succès populaire de Jean-Baptiste et que ce succès ne dégénère en soulèvement. Donc on sait que Antipas va faire exécuter le Baptiste et que Jean le Baptiste est exécuté aussi pour des raisons politiques car il faisait de l'ombre à Hérode. Et voilà, à cause de cette foule nombreuse qui suivait Jean le Baptiste. Il y a aussi une autre raison qu'on peut ajouter, c'est que le prophète Jean le Baptiste est aussi un peu victime de sa prédication parce que dans sa prédication, eh bien, pour lui, c'est l'immersion baptismale qui prévaut au sacrifice, ce qui fait qu'il relativise l'importance du rôle des élites sacerdotales du temple.
Oui.
Et très intéressant pour terminer sur cette question, c'est qu'en 36, l'armée d'Hérode va finalement être battue et même anéantie par les Nabatéens. Ils vont finalement se battre et Hérode, les armées d'Hérode vont être battues. Et l'opinion publique, qui ne lui avait pas pardonné l'exécution de Jean-Baptiste, verra dans cette défaite une sanction infligée par Dieu pour avoir fait mourir le prophète. Voilà, bon ça c'était pour le contexte un peu politique de l'époque.
C'est pas marqué dans l'écriture ça.
Non, ça c'est pas dans l'écriture. Et dans l'écriture on a simplement effectivement la mention de l'illégitimité du mariage, hein, du remariage d'Hérode Antipas.
Hérode, oui.
Qui fait partie bien sûr de tout ça. Hein.
Mais oui, bien sûr.
Mais il y avait en plus cette raison aussi politique. Moi j'ai découvert qu'il y avait ces Nabatéens en conflit avec Hérode et que cette première femme d'Hérode était bien la fille du roi, un Nabatéen. Et nous avons quelqu'un, je crois.
Oui, Sandra vient nous rejoindre.
Ah bon ? Oh, merci Sandra.
Bonjour Sandra.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sandra.
Bienvenue.
Merci de venir me soutenir.
Mais je viens de Suisse, alors je me suis dit je vais venir soutenir.
Ah.
C'est pas un grand soutien, mais j'essaye.
La Suisse à l'attaque, donc Sandra de Suisse. Alors vous n'êtes pas du même endroit peut-être, hein ? Vous êtes de quel endroit en Suisse ?
Du Valais.
Du Valais.
Oh. De quel endroit du Valais ?
Au-dessus de Sierre.
Ah bah j'y étais la semaine passée.
Ah bah voilà.
Ah, voilà.
Vous êtes croisés.
Ah d'accord, oui, je vais de temps en temps à Gérande, oui.
Ah bon ?
Mais
moi j'y vais tous les deux mois, 5 jours.
Ah joli, hein, c'est sympa.
Oui.
Sympa, ouais, j'aime bien aussi.
D'accord. Je ne connais pas les béatitudes au Valais, je connais Gérande.
Ah, sympa. Mais les béatitudes à Ventône, c'est sympa aussi. C'est pas loin, c'est juste en face. Parce qu'on est dans l'Alpes valaisanne, hein, pour vous situer, pour que le public comprenne de quoi on parle. Voilà.
En tout cas, c'est sympa, Sandra, de ne pas laisser Sœur Jacqueline-Marie toute seule, qui attendait, voilà. Une aide.
Ben oui.
Je vais essayer. Je vais essayer avec joie.
Eh bien, donc la question suivante, elle est pour vous, Sandra, alors.
Je vous écoute.
Alors, on est parti. Où j'en suis ? Voilà. Alors, dans quelle province se trouve la forteresse ? On est avec Jean-Baptiste, hein, c'est des questions sur Jean-Baptiste au début.
Oui.
Dans quelle province se trouve la forteresse de Macéronte, dans laquelle Jean-Baptiste a été emprisonné, puis là où il sera exécuté par Hérode ? De quelle province s'agit-il pour cette forteresse de Macéronte ? Trois possibilités, Sandra.
D'accord.
La Galilée, et la Judée ou la Pérée ?
La Galilée.
La Galilée pour Sandra, sœur Jacqueline-Marie.
La Judée.
La Judée, eh bien c'est ni l'une ni l'autre.
Ni l'autre.
Ah.
C'est la Pérée.
C'est la Pérée.
Alors oui,
Hérode. J'en ai entendu parler.
Hérode avait eu autorité sur ces deux provinces qui étaient la Galilée, effectivement, mais aussi la Pérée. Alors la Pérée, ça se trouve à l'est du Jourdain, et donc de l'autre côté, et Macéronte est tout au sud de la province de Pérée, à l'est juste de la mer Morte.
Ah, ok.
Et c'est là qu'il y avait une forteresse, et c'est là que... Alors peut-être on peut penser que aussi ce lieu a été choisi par Hérode pour éloigner hein, Jean-Baptiste de sa prédication, notamment en Galilée. Hein. On le met tout
ah,
au fond
d'accord.
là-bas... Parce qu'il avait quand même beaucoup de personnes qui le suivaient.
Oui.
Eh bien, nous sommes dans le quiz biblique, on continue. Est-ce qu'il y a une petite brebis dans les parages? Oh là, c'est quoi ça? Ça s'appelle comment? C'est une marmotte? C'est parce qu'on est, on est avec des Suisses?
Oui, il y a des marmottes en Suisse.
Ah ben oui!
On dort beaucoup!
Bon, je vais essayer de ne pas faire la marmotte pendant l'émission. Alors, question suivante pour Sœur Jacqueline Marie. Question assez courte. Hein. Que signifie la métaphore du feu dans la Bible hébraïque en général? La métaphore du feu. Sœur Jacqueline, trois possibilités. L'amour, l'alliance ou le jugement dernier?
Le jugement dernier?
Et oui, sans hésitation.
Bravo!
Et oui, le feu, il est la marque du jugement. On a vraiment un cas très connu hein, dans l'Ancien Testament, c'est bien sûr le cas de Sodome et Gomorre. C'est le jugement radical. Mais on l'a également dans le Nouveau Testament, puisqu'on sait qu'à un moment, Jésus va employer le terme de l'expression « le feu de la géhenne ». Et aussi, dans l'Apocalypse, on a l'expression « l'étang de feu », s'agissant de la fin des temps. L'étang de feu, c'est dans l'Apocalypse 20, c'est sur le second combat eschatologique et le jugement des nations. Également en Matthieu 5, chapitre 5, verset 22. Voilà, le feu qui...
Je pensais au feu de l'Esprit Saint, vous savez, au moment de la Pentecôte.
Tout à fait. Alors effectivement, ça va venir plutôt dans un second temps, puisque là c'est vraiment propre à la première communauté chrétienne. Ça, c'est plus la notion du feu dans son sens Ancien Testament.
D'accord. Ah, d'accord, ouais.
Oui, comme le jugement qui tombe, qui arrive. Eh bien, nous poursuivons la question suivante pour Sandra.
Ouais. Ah, voilà les chevaux.
Là, Sandra, il faut descendre de cheval hein, pour jouer.
Ouais.
Alors, nous restons toujours dans le même récit, alors que Jean-Baptiste est emprisonné dans la forteresse de Macéronte. Il envoie des hommes questionner Jésus. Vous vous souvenez de ce passage? La question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors la question, que répond Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste? Que répond Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste? Trois possibilités, Sandra. Il répond qu'il est bien celui annoncé. Deuxième possibilité, il énumère une série de miracles. Troisième possibilité, il les invite à se mettre à sa suite. Que répond donc Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste qui lui demande « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?»
Alors Saint Jean-Baptiste dit qu'il doit suivre Jésus. J'ai bien compris, c'est ça?
Alors c'est ce passage dans l'Évangile où effectivement ces envoyés de Jean-Baptiste viennent vers Jésus et lui disent donc cette question hein, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus va répondre d'une certaine manière. Et la question, c'est est-ce qu'il répond qu'il est bien celui annoncé? Ou est-ce qu'il énumère une série de miracles?
C'est le premier.
Ou est-ce qu'il les invite à se mettre à sa suite? Il est celui annoncé.
Ouais.
Pour Sandra. Et pour Sœur Jacqueline Marie?
Moi, je fais la même chose.
La même chose. Et c'est le deuxième. Il énumère une série de miracles.
Ah, j'aurais... Alors non, alors là...
Alors là...
J'ai jamais compris que c'était ça, jamais.
Alors, vous allez voir dans Matthieu, chapitre 11, verset 3, Jésus ne répond pas directement à la question posée. En fait, il déplace la question. Et voilà ce qu'il dit. Ben, les aveugles voient et les boiteux marchent.
Ah.
Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Annoncée aux pauvres.
Mais oui. Alors, j'avais plus en tête.
Donc, à cette question précise, à hein, ce moment précis du récit, effectivement, à cette question, il répond par cette série de miracles. Miracles cités par Jésus, qui sont donc, bien sûr, la signature hein, du salut eschatologique, qu'on trouve déjà dans le livre d'Isaïe. Ce que dit Jésus, c'est pas quelque chose inventé comme ça, là, qui sort de nulle part. C'est, on le trouve chez les prophètes et on le trouve notamment chez Isaïe, dans plein de passages d'ailleurs d'Isaïe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez qu'on a découvert, à partir de 1947, on a découvert plein de rouleaux, les manuscrits de la Mer Morte. Dans ces manuscrits, on a trouvé un passage qui dit, écoutez bien parce que c'est intéressant, « Alors il guérira les blessés et fera vivre les morts. Il annoncera une bonne nouvelle aux pauvres et rassasiera les humbles. Il conduira les égarés et enrichira les affamés. » C'est un texte essénien qui témoigne donc d'une attente messianique du salut en Israël au 1er siècle.
Mais il parle de Jésus, non ?
Alors, là, pendant ce texte essénien, il ne parle pas précisément de Jésus. C'est simplement le signe que beaucoup de monde, finalement, attendait à cette époque.
Le Messie.
Attendait le Messie. L'attente messianique devenait vraiment brûlante, on va dire. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve ça d'abord chez Isaïe, quelques siècles avant, mais ensuite, bien sûr, dans la bouche de Jésus, de Jean-Baptiste et puis de ses Esséniens. Je crois qu'on a quelqu'un d'autre ?
Oui, Monique Marie vient nous rejoindre.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Monique Marie.
Oui, je ne sais pas si je vais savoir répondre vraiment, mais on va tenter. Hein.
Alors, tout le monde tente, hein. Parce que c'est vrai qu'on pédale un peu. Hein.
Bonjour Monique.
Monique Marie, vous nous appelez d'où ?
Lemay-sur-Seine.
Ah, ça c'est en région parisienne ?
En Seine-et-Marne.
En Seine-et-Marne.
En Seine-et-Marne, oui.
Voilà.
Super.
Eh bien, c'est parti, on continue donc ce quiz biblique. Eh bien, la question suivante, on va vous la poser à vous, Monique Marie, qui venait d'arriver.
Voilà. Oui, d'accord.
Ça ira.
On envoie l'Esprit Saint.
On envoie l'Esprit Saint.
Bonne idée.
Oui.
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de Dieu,
viens nous embraser.
Voilà, c'est parti. Monique Marie, on continue. Les premières questions, c'était sur Jean le Baptiste. Et on continue toujours avec lui. La question, quelle est l'originalité proprement révolutionnaire, on peut mettre des guillemets, mais c'est quand même assez révolutionnaire, qu'instaure Jean-Baptiste dans la religion juive de ce premier siècle ? Et là, il y a trois possibilités, Monique Marie. L'annonce du jugement dernier, ou bien la vie ascétique sans compromis, ou bien le rite baptismal.
Quel est le rite baptismal ?
Et oui, Monique Marie, sans hésitation.
Oui, c'était pas trop difficile.
Et oui, c'est tout à fait nouveau, ça n'existe pas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est tout à fait nouveau, le baptême de Jean, qui est donc lié à cette exigence de conversion, constitue donc une innovation religieuse dans la Galilée du 1er siècle. Mais Jean est le premier, au sein du judaïsme, à mettre en place un rite baptismal unique, parce qu'il n'y en avait qu'un. Alors, on sait que les Juifs pratiquaient les ablutions, un rituel, pour se purifier. D'ailleurs, la présence des Romains en Palestine était considérés comme des impies, qui souillaient la Terre Sainte, avaient accentué ce phénomène de purification et d'ablution. Et d'ailleurs, on a, dans les découvertes archéologiques, on a trouvé une multiplication de bassins d'eau qui permettaient la purification, notamment sur le site de Qumran, mais également aux abords du Temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait Jean ? Ben Jean, il rompt avec la pratique des ablutions répétitives pour prescrire une purification unique, suffisante. Alors son baptême, bien sûr, ne lave pas seulement les fidèles des souillures du monde profane, mais efface les péchés en vue du jugement.
D'accord.
Voilà, donc c'est une innovation.
Ah oui, c'est subtil.
C'est une innovation extraordinaire que porte Jean-Baptiste.
Oui.
Ce baptême que nous allons poursuivre après dans le christianisme.
Il n'avait pas complètement la valeur de...
Non, c'est une signification qui va...
De voilà. Jésus.
Ça prendra une autre signification plus
oui.
Propre aux chrétiens.
Oui.
Mais en tout cas, c'est bien Jean qui a introduit ce nouveau rite, complètement innovant. Je crois qu'on a quelqu'un d'autre.
Oui, Jeanne vient nous rejoindre.
Oh là là, majeur.
Oh.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Jeanne.
Je viens d'allumer le... Voilà.
Eh bien
bonjour.
Jeanne... Bonjour Jeanne.
Bonjour à vous tous.
Bonjour Jeanne.
Soyez bénis.
Alors nous avons Mulhouse.
Aussi.
Mulhouse avec Jeanne, la Seine-et-Marne avec Monique Marie et
bonjour.
La Suisse avec Sandra.
Alors on a la Suisse, on a l'Alsace et puis Paris.
Et la région parisienne. Eh bien voilà, donc bienvenue à Jeanne. Ben, la question suivante, elle est pour Jeanne alors. Parce que sinon, c'est fou là, le temps passe vite. Allons-y, allez, Jeanne.
Oui.
On était donc avec Jean-Baptiste, on reste encore un peu avec Jean-Baptiste.
Ah.
De quelle lignée était Jean avant qu'il ne commence à prêcher l'imminence du jugement et à mener cette vie ascétique dans le désert? De quelle lignée était Jean avant de tout envoyer, on va dire, balader hein, pour être ce prêcheur dans le désert?
Il était dans le désert, oui.
Alors, est-ce qu'il était d'une lignée de pharisiens? Première possibilité. Deuxième possibilité, une lignée sacerdotale. Troisième possibilité, une
lignée... Attends, j'ai pas compris.
De quelle lignée était Jean avant qu'il se mette à prêcher dans le désert? D'où vient-il? De quel type de famille? De quel type de lignée? Une lignée de pharisiens, une lignée sacerdotale ou une lignée davidique royale? Alors, Jeanne.
Moi, j'aurais dit sacerdotale.
Et c'est une excellente réponse.
Oui, c'est sûr.
Et oui, il était fils de prêtre.
Bah oui, c'était la voilà, fille de prêtre.
Et oui, il est fils de prêtre. Il a rompu avec les traditions de son milieu. Il a rompu avec la ritualité sacrificielle à laquelle était voué son père pour instaurer des mesures radicales qu'imposait à ses yeux la venue du jugement dernier.
D'accord, c'est ça, oui.
Très, très bonne réponse de Jeanne. Et nous poursuivons cette fois avec... Jacqueline, sœur Jacqueline.
Oui.
Est-ce que vous êtes prête?
Avec un basse-cour. Et on
entend. Sandrine qui va aller chercher les œufs. Alors, sœur Jacqueline Marie.
Oui.
Question qui n'est pas évidente, mais elle est dans l'Évangile. J'ai trouvé cette réponse dans l'Évangile. Dans l'histoire donc, de ce chaudron qu'était la Palestine du 1er siècle, un véritable chaudron, Jean n'était pas le seul à se retirer au désert. Dans les Actes des Apôtres, à la fin de ses missions, Paul est arrêté à Jérusalem. Et il a un dialogue avec un tribun. Et avec qui est-il confondu, Paul? Trois possibilités. Confondu avec un Égyptien, avec un Samaritain ou avec un Syrien. Bon, j'avoue qu'elle n'est pas facile, mais c'est un passage des Actes. Il est confondu.
Pas facile, hein.
Interrogé par un tribun, il est confondu avec un Égyptien, un Samaritain ou un Syrien. Oh, l'inspiration. Oh, la pifomètre.
Oui, la première.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Oh, bah, c'est bien. Oui, c'est au pifomètre. Hein.
Eh bien, bon, tu vois, le pifomètre, ça marche.
Ben oui.
Et oui, c'est un Égyptien. Alors j'ai découvert ce passage, hein, c'est dans les Actes, chapitre 21, verset 37-38. Sur le point, voilà le passage, hein, sur le point d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « Me serait-il permis de te dire ?» Le tribun répond, « Tu sais le grec ?» demanda celui-ci. « Tu n'es donc pas l'Égyptien qui, cet an dernier, a soulevé 4000 sicaires et les a entraînés au désert ?» Et donc voilà cet Égyptien qui était-il? Alors les sicaires, vous le savez, hein, on l'appelait de ce nom les extrémistes religieux armés d'un poignard, hein, qui donne le mot sicaire. Alors on sait que l'historien Flavius Joseph confirme, cet Égyptien s'était attribué la réputation de prophète et beaucoup d'autres cas similaires sont rapportés dans l'histoire de ce premier siècle. Des mouvements, donc il n'y avait pas que Jean-Baptiste, il n'y avait pas que cet Égyptien en question, il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Ces mouvements ont d'ailleurs été systématiquement réprimés dans le sang par les Romains, qui étouffaient dans l'œuf tout ce qui ressemblait à un soulèvement populaire. Voilà pourquoi donc Jean le Baptiste n'était pas le seul à adopter le désert de Judée comme lieu de retraite. D'autres mouvements, parfois violents, avaient fait aussi ce choix. Voilà, très bonne réponse de Sœur Jacqueline Marie. Eh bien, la question suivante, elle est pour Sandra.
Oui.
Sandra, are you ready?
Je suis prête. J'ai un arbitre devant moi, si jamais vous pouvez me donner une info ou aller chercher les réponses.
Les réponses sont diffusées en direct sur le site Facebook de Radio Maria France.
Jamais! Ça n'est pas mal!
Avec un petit code qu'on donne à certains et pas à d'autres. Enfin, voilà.
Bon. On n'a pas le droit de la voir.
Ah non, sinon c'est pas drôle.
Je pense que j'ai des bêtises.
Alors attention Sandra pour cette question.
Ouais, je l'écoute.
Alors pourquoi ces mouvements, ces mouvements dont on vient de parler, hein, ces mouvements messianiques ou révolutionnaires, pourquoi choisissaient-ils le désert comme lieu de retraite et de prédication ? Tibilité Sandra.
D'accord.
Pour simplement s'éloigner des villes et des autorités ? Ou bien pour trouver le calme et le silence ? Ou bien pour y trouver Dieu et fuir les souillures païennes ?
La troisième possibilité.
Tout à fait, Sandra. Oui, oui, c'est une bonne réponse.
Merci.
Et oui, c'est pour
oui.
Vous savez que dans la foi d'Israël, le désert, c'est le lieu mythique des origines.
Oui.
C'est le lieu de la réception de la Torah, de la rencontre avec Dieu.
Oui.
Alors, des agitateurs hein, religieux y entraînaient leurs adeptes pour fuir la terre souillée. Souillée par qui ? Par la présence des Romains.
Des Romains.
Et assister au miracle merveilleux qui avait jalonné le parcours d'Israël durant l'Exode. Et d'ailleurs, le message de ces prédicateurs du désert était clair. Israël est à nouveau en situation d'esclavage, comme en Égypte. Et un nouvel exode doit permettre la libération de l'oppression. Le salut viendra du désert. Ça tombe bien parce que le carême approche. Leur slogan était « N'être ni n'être esclave ni des Romains, ni de personne d'autre que Dieu ».
Ben oui.
Voilà un petit peu le message permanent de ces hommes qui partaient au désert. Merveilleuse réponse
ouais,
de Sandra.
Ouais.
C'est bien.
Sandra Fortiche.
Si.
Alors, où en suis-je ? J'en suis.
C'est Monique maintenant.
Monique Marie.
Oui.
Est-ce que vous êtes
oui.
prête ? Oh, cette mouche est insistante.
Oh non.
Alors, racontée par les historiens. Alors celle-là, elle est difficile, hein, je ne le cache pas, mais c'est pour ça qu'on va faire de Pifomètre aussi. Racontée par les historiens, une initiative de Ponce Pilate, lorsqu'il était préfet de Judée, a provoqué un scandale dans la communauté juive. Laquelle ? Et je vous avoue que j'ai découvert en faisant le quiz. Hein, quelle est cette initiative de Ponce Pilate qui a créé ce scandale dans la communauté juive ? Trois possibilités, Monique Marie. La fermeture de l'accès au temple, ou bien l'annulation d'une grande fête juive ? Ou bien la construction d'un aqueduc. Attention, parce que j'ai pas un petit piège. Voilà. Bon, bref.
Alors, répétez. Alors, dans quelles circonstances il a fait cette interdiction ?
Ou alors, quelle est cette initiative qu'il a pris, Ponce Pilate, et qui a créé un scandale dans la communauté juive ? La fermeture de l'accès au temple, l'annulation d'une grande fête juive, ou bien la construction d'un aqueduc. Là, j'avoue que bon. Le pifomètre est autorisé.
Oui, ben la construction d'un aqueduc.
Eh ben c'est une excellente réponse.
Ah oui, c'est ce que j'ai vraiment pensé.
J'aurais dit la même chose parce que c'est tellement...
Oui, ben voilà.
C'est bizarre que...
C'est un vrai qui parle, oui, on aurait eu la même chose.
Alors Sandra, ce qu'elle veut dire, c'est par élimination, effectivement.
Ah. Ben oui.
Ouais, c'est ça.
Exactement. C'est une bonne réponse. Pourquoi ce conflit ? Parce que Pilate, il est préfet de Judée, donc il fait construire plein de trucs. Là, il fait construire un aqueduc.
Oui.
Seulement, il fait construire l'aqueduc avec des sous, et ces sous, ce sont des fonds qui proviennent du trésor du temple.
Ah, voilà.
Ça, c'est la première chose. Et en plus,
ouais,
il le fait.
C'est ça qui est le scandale.
Et il le fait à proximité d'un cimetière.
En plus.
En plus.
Ouais. Pour transporter les âmes.
Imaginez.
Enfin, c'est pas les âmes, c'est les morts. C'est les corps.
C'est...
Et il y a Sandrine qui continue à construire.
Il y a Sandrine qui refait la régie. Hein. Alors nous savons aussi que Ponce Pilate, il avait fait frapper les monnaies avec des symboles,
voilà,
des symboles païens.
Ça.
Alors ça c'est intéressant, c'est que aucun des prédécesseurs de Ponce Pilate n'avait osé le faire. Il faut quand même le remarquer, c'est Pilate qui va le faire. Il va mettre des symboles cultuels païens sur les pièces de monnaie. Mais on sait aussi qu'il a essayé d'introduire des effigies de l'empereur à Jérusalem. Alors là il a reculé parce que le scandale était aussi énorme. Et, très intéressant, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 1, il y a des gens qui viennent voir Jésus pour lui rapporter quelque chose, pour lui rapporter un fait. Survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Ça, vous trouvez ça dans Luc 13, 1. Alors, il est obsédé par l'ordre public. Hein. Pilate était prompt à envoyer ses légionnaires mater les foules. Et c'est d'ailleurs à la suite de la répression sanglante d'un rassemblement autour d'un prophète, samaritain sur le mont Garizim, qu'il fut convoqué à Rome en 37 et qu'il fut destitué, Pilate.
Ah,
il oui. a été destitué parce qu'il est allé un peu trop loin. Alors, il faut... Alors parfois, l'évangile, on a une image un peu, une image d'épinal hein, de Pilate, une image un peu accommodante, y compris d'ailleurs lors du procès de Jésus, mais en réalité, Pilate était particulièrement sévère et dur et cruel. Et pour que même Rome s'inquiète de ses exactions, cela nous renseigne hein, sur la cruauté et l'ambition.
Pourtant, il avait une femme qui le prévenait. Hein.
Alors après, est-ce qu'il écoutait sa femme? C'est ça la question.
Au moment de la passion de Jésus, oui.
Tout à fait.
Elle avait eu un rêve,
oui, qui lui disait.
Oui, c'est ça. Ah, c'est
tout à fait, oui. Ouais.
Il n'écoutait pas beaucoup sa femme.
Mais voilà.
Alors, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Allez, on y va. Alors, je vous la pose à toutes les quatre.
Back.
All right, ready?
Parti.
Oui.
Cette fois, on va vers Hérode Antipas, qui a également scandalisé les Juifs en bâtissant sa nouvelle capitale sur l'emplacement, cette fois, d'un cimetière. Alors, lui, il n'est pas à côté du cimetière, il est carrément dessus. Pouf! Et il va scandaliser les Juifs.
C'est moyen, hein. C'est
de,
moyen.
De quelle ville s'agit-il? De cette fameuse ville construite par Hérode Antipas sur un cimetière. Trois possibilités. Alors, pour vous aider, on est quand même à côté du lac. Hein. Le fameux lac, voilà. Capharnaüm, Tibériade ou Magdala?
Tibériade.
Oh là là, la fin dégainée, ça a été Sandra, je crois.
Ouais.
Voilà, c'est une très bonne réponse.
C'était facile, vous nous aviez donné un...
Ouais,
Avec le lac, c'était facile. Hein.
J'aurais,
ouais,
pas
c'était facile.
Ouais, j'aurais pas dû. En tout cas, tout le monde avait la réponse, j'en suis sûr. Et oui, c'est une ville qui a été construite vers à peu près 26. Donc, on peut imaginer que Jésus, dans sa prédication, l'a connue, hein, même s'il n'y entrait pas forcément. 26 après Jésus-Christ, la ville doit son nom, bien sûr, à l'empereur Tibère. Et elle est bâtie sur la rive ouest hein, du lac de Tibériade. Alors, à cause de la présence de ce cimetière, la ville entière était considérée comme impure. Et le palais d'Hérode à l'intérieur de cette ville était en plus décoré de fresques d'animaux.
D'accord.
En contradiction avec l'interdit des images. Donc Hérode, il a tout faux. Et au début de la guerre juive, vous savez qu'il y a une grande guerre juive qui va commencer en 66. Et au début de la guerre juive en 66, une foule en colère va détruire ces fresques. Pour vous dire qu'ils se sentaient humiliés quand même, hein, ces juifs pieux, à la fois par Hérode, à la fois par la présence romaine, etc. etc. Mais on en reparlera, parce que là on arrive à la fin, je crois. Ouais. Je vais me faire
gronder.
Je vais me
Et
faire...
en fait, c'était quoi comme question, parce que j'ai été coupée.
Ah, la question c'était quel était le nom de la ville construite par Hérode Antipas sur un cimetière, d'ailleurs, et donc ça a déclenché aussi un scandale. Voilà, là.
C'est intéressant, on ne savait pas tout ça. On a appris beaucoup de choses grâce à vous, merci.
Merci. Bah, en tout cas, merci à toutes les quatre. Merci sur Jacqueline Marie, Monique Marie, Jeanne, Sandra.
Oh, je suis désolée.
Et Sandra, je crois que c'était la première fois que vous jouiez, non?
Oui,
il me semble, oui.
Voilà, donc en tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci à toutes les quatre.
Merci.
Elle est assez rapide en réponse. Et puis assez,
ah, ça fuse, hein, Sandra, ça fuse. Hein.
Juste.
Merci, elle est bonne. Tu as les bons indices, c'est facile.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Merci beaucoup.
J'ai commencé à chercher des questions.
Du coup, j'ai été coupée.
Ah, bon, ben on...
Non, mais c'est pas grave.
En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir participé.
Merci à vous.
Et soyez bénis.
Merci à vous, à Sandrine.
À très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Soyez bénis.
Merci Sandrine.
Merci Jérôme.
Et on se retrouve vendredi prochain, même heure, 17h.